midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS, pour à votre santé et votre santé au féminin aujourd'hui, j'ai invité Nathalie André. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Télégramme. C'est breton tout ça, c'est pas le Télégramme de Brest ?
Non, ça l'est plus depuis des années.
Oui,
maintenant c'est le Télégramme tout court, d'accord, mais c'est
moi,
en Bretagne.
Mais moi dans ma mémoire, c'était à Brest.
Mais oui, mais on est à Brest et dans l'ensemble de la Bretagne.
D'accord, mais c'est le Télégramme, c'est devenu le Télégramme. Bien, vous publiez Endo Girls, une enquête sans tabou sur l'endométriose et la santé des femmes aux éditions du Courrier, du livre illustré par Violette Suquet.
Tout à fait.
Personne ne vous a dit, mais qu'est-ce que vous embarquez dans un livre sur l'endométriose ? Qu'est-ce que vous faites là-dedans ? Personne ne vous a dit
Non. Des livres sur l'endométriose, il y en a plein.
Ouais,
il y en a plein, ça c'est clair.
Ouais.
Comme le nôtre, non. Il y a beaucoup de livres médicaux qui sont essentiels pour comprendre la maladie. Mais on se disait qu'avec ce format de roman graphique, on pouvait toucher un public plus large, et notamment les adolescentes. Puisqu'il y a une partie des femmes qui souffrent d'endométriose, elles en souffrent dès l'adolescence. Donc il nous semblait intéressant de toucher ce public large.
Voilà. Et alors vous avez recensé à peu près tout ce que le monde de l'endométriose recense de spécialistes, d'acteurs de terrain, d'associations également. Vous êtes parti à leur rencontre.
Ouais. Au final, c'est une enquête de plusieurs années. J'ai commencé à m'intéresser à l'endométriose par le biais de mon travail au Télégramme. C'était en 2019. En 2019, je lance un appel à témoignage sur le site du Télégramme. En 72 heures, je reçois plus de 900 témoignages de femmes qui souffrent d'endométriose en France, en Belgique. Donc à partir de là...
Et vous pensiez pas du tout avoir ce taux de réponse ?
Pas à ce point. Pas à ce point. En 2019, on commençait à parler de l'endométriose dans les médias. Moi, j'avais vraiment le sentiment que mon appel à témoignage serait un succès, mais pas à ce point-là. Puisque 900 témoignages en 72 heures, on n'avait jamais connu ça au Télégramme.
Et comment l'idée du livre est venue alors ? C'est à ce moment-là ou
Non. 2019, c'était vraiment... J'étais sur une série d'articles et j'en ai fait un certain nombre depuis cette année-là. C'est en fait, le livre est venu de ma rencontre avec Violette Suquet en 2022. Donc Violette Suquet est une dessinatrice. Elle a illustré plusieurs guides médicaux. Elle est bretonne aussi. Donc on s'est rencontrés. On a vraiment un intérêt commun pour la santé des femmes. Après cette rencontre, je lui ai très vite demandé si ça l'intéressait qu'on travaille sur l'endométriose.
Alors depuis, il y a eu le lancement de la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose début 2022. Donc lancé à grand renfort de
communication présidentielle.
D'effet d'annonce du président de la République.
Oui. Oui.
Et donc vous avez rencontré le ministre qui à l'époque était en charge du dossier mais qui a changé depuis,
oui.
Et vous avez fait un petit peu le point avec lui de savoir ce que cette stratégie nationale avait changé puisque le président avait mis en avant trois idées, en tout cas d'avancer. Donc c'était quoi les trois idées du président Macron ?
C'est notamment communiquer beaucoup sur la maladie puisque même si elle touche entre 10 et 20% des femmes en âge de procréer, elle reste méconnue et notamment par une partie du corps médical.
Ça m'étonne tellement.
Mais moi aussi.
Parce que je veux dire, vous dites que c'est 2019, mais moi ça fait peut-être 15 ans que je fais des émissions sur l'endométriose, donc j'ai l'impression que ça fait longtemps quand même.
Oui.
Et on parlait des gynécos, des médecins généralistes qui n'étaient pas informés, mais quand même depuis. Il y en a passé de l'eau sous les ponts.
Mais c'est le cas encore d'une partie du corps médical. Il faut savoir que l'endométriose n'est enseignée en faculté que depuis 2020. 2020, c'est hier matin, en fait.
D'accord, faculté de médecine.
Oui.
Ouais. Et vous racontez des histoires de gynécologues qui nient encore la maladie.
Oui. C'est une invention des femmes, ça se passe dans leur tête. Il y a certaines femmes qui s'entendent dire aussi que c'est la maladie à la mode. Puisqu'on en parle de plus en plus, donc voilà, elles ont été contaminées par ce qu'elles ont entendu.
Alors sur les réseaux sociaux notamment, parce que c'est vrai que c'est vraiment un sujet qui est très exploité sur les réseaux sociaux.
Les associations sont très actives. C'est notamment grâce à elles qu'on parle de l'endométriose. Endo France, la première association en France qui a été créée sur l'endométriose, elle a été créée en 2001. Pendant des années, elle a été dans l'ombre. C'est vraiment les témoignages de stars, Laetitia Milo, Laurie Pester, qui ont mis en lumière cette maladie.
Mmh. Vous dites que la première femme, c'est Laetitia Milo. Celle qui a vraiment mis un mot et qui a permis qu'on ait une visibilité sur l'endométriose.
C'était... lorsque son livre est sorti en 2016, elle était dans Plus belle la vie. Enfin, c'était Plus belle la vie était à son apogée. Donc forcément, ça offrait une visibilité à cette comédienne. Cette comédienne prenant la parole sur l'endométriose, les médias s'y sont intéressés et ça a fait effet boule de neige.
Mmh. On mettait un visage connu finalement sur une maladie dont on commençait à parler.
Oui, quoi. Parce qu'il y a des femmes qui témoignaient, mais c'était des anonymes, donc pour dire la chose clairement, on s'en fichait un peu quoi.
Alors Endo France, donc la pionnière, et puis ensuite Endomind, voilà. Quelques années plus tard, quand même. Hein.
Oui. Après, il y a des associations aussi au niveau régional. En Bretagne, on a par exemple Bretagne Endométriose. Il y a les grosses associations, Endo France, Endomagne. Et après, dans les régions, on se mobilise aussi pour lutter contre la maladie, pour informer, pour soutenir les femmes qui ne trouvent pas... une oreille attentive auprès du corps médical, donc les orienter vers des médecins qui eux le sont.
Oui. Et vous expliquez que finalement, ce combat pour la visibilité, c'est vraiment les associations qui l'ont gagné.
Oui, parce que Laetitia Milo est marraine d'Endo France. C'est clairement Laetitia Milo et derrière les associations qui ont toujours été là pour soutenir les femmes, qui ont fait qu'on a enfin pris conscience. Du fait que cette maladie en fait touche entre 10 et 20% des femmes en âge de procréer, donc dans notre entourage, on a forcément quelqu'un qui en souffre, une cousine, une collègue de travail, une voisine, forcément. Après, on le sait ou pas, mais forcément, on a quelqu'un dans son entourage qui en souffre.
Hmm. C'est énorme, hein, entre 10 et 20%.
Ouais, c'est énorme. Hmm. Après, elles ne souffrent pas toutes des mêmes symptômes. Certaines ne souffrent pas en fait. On découvre leur endométriose lorsqu'elles font des examens par rapport au fait qu'elles n'arrivent pas à concevoir un enfant. Elles ne souffrent pas, on fait les examens, et là on découvre qu'il y a de l'endométriose. Mmh. Et c'est ça qui génère leur infertilité.
D'accord. Est-ce que l'endométriose, c'est la première cause d'infertilité aujourd'hui ?
Non, c'est les troubles ovocytaires.
D'accord. Et deuxième,
c'est la deuxième, c'est l'endométriose.
Ouais. D'ailleurs, c'est à partir du moment où elles sont diagnostiquées, celles qui en souffrent, pense tout de suite à l'infertilité.
Ouais, mais il ne faut pas mettre un signe égal. La gynécologue qu'on a interviewée dans le cadre de notre roman graphique le dit. Faut vraiment pas. C'est pas systématique. Il y a une partie des femmes qui souffrent d'endométriose qui ont des difficultés à concevoir, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des femmes qui souffrent d'endométriose, elles n'ont pas de problème pour concevoir, mais par contre, elles souffrent de douleurs. Elles ont des problèmes au niveau intestinal, enfin, les symptômes sont divers, mais il ne faut vraiment pas mettre un signe égal entre les deux.
Mmh. Alors, c'est vrai que le mot, finalement, s'est popularisé, donc plus ou moins tout le monde connaît le mot endométriose, mais la maladie reste globalement méconnue. Et vous parlez de symptômes, finalement, les symptômes sont assez peu connus par ceux qui ne sont pas concernés.
Ouais, alors je pense qu'ils ont été beaucoup banalisés, en fait. Qu'une femme souffre pendant ses règles, c'est un peu considéré comme normal. En fait, ça ne l'est pas.
Oui, mais est-ce que l'endométriose, c'est la maladie des règles douloureuses ?
Non, pas forcément. C'est une partie. Ouais. Mais oui, vous avez raison, ça reste méconnu. Mais parce que y a un programme de recherche qui a été lancé, mais que récemment, en fait, on est... On est en retard, en fait, par rapport à toutes ces souffrances que les femmes éprouvent. Mmh.
Quels sont les clichés dans l'enquête que vous avez menée qui sont encore attachés à l'endométriose ?
J'en parlais tout à l'heure, c'est que c'est un problème dans la tête des femmes. Elles s'entendent dire qu'elles sont chochottes, douillettes, c'est insupportable. Si elles sont face à un professionnel de santé, c'est qu'il y a une raison, il faut les écouter. Et je pense qu'elle trouverait autre chose à faire que de venir embêter entre guillemets un médecin en parlant de douleurs imaginaires. Faut les écouter. C'est surtout la non-écoute en fait qui est perturbante et le fait que des femmes font face à des médecins. Alors c'est pas tous les médecins, soyons clairs, mais il y a des médecins qui nient l'existence de la maladie et des médecins qui ne sont pas formés en fait. Et en fait, comme le dit Martin Winkler dans la BD, lorsqu'on ne sait pas, on a le droit d'orienter des femmes vers quelqu'un d'autre, en fait. On a le droit de pas tout savoir. On ne peut pas demander à un généraliste de tout savoir, de connaître l'ensemble des maladies. Mais s'il ne le sait pas, il a le droit d'orienter les femmes vers un interlocuteur adéquat.
Alors, il y a un chiffre, c'est 7 ans.
Ouais.
7 ans d'errance médicale avant.
En moyenne. C'est une moyenne. Et selon les études, c'est entre 7 et 10 ans. Il y a des femmes qui souffrent beaucoup, enfin, qui sont en absence de diagnostic pendant plus longtemps. Il y a des femmes qui attendent 20 ans d'avoir un diagnostic. Avec Violette Suquet, on multiplie les dédicaces et ces femmes-là, on les rencontre. Elles n'ont pas été entendues. Donc le 7 à 10 ans, ce n'est qu'une moyenne.
Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, quand même, pour les nouvelles générations, c'est moins long?
Bah, on peut l'espérer, mais pour l'instant, on n'a pas d'études récentes.
Oui.
Mais effectivement, en dédicace, on a vu des jeunes filles de 16 ans, 20 ans, avec un diagnostic. Et ça, c'est génial.
Enfin, c'est peut-être ça qui a changé, quand même. C'est qu'aujourd'hui, en parlant de la maladie, on a une prise de conscience et finalement des femmes qui sont dépistées beaucoup plus tôt.
Eh ben, je l'espère. J'espère que c'est le cas de beaucoup de jeunes filles qui souffrent de cette maladie, qui ont un diagnostic. Mais pour l'instant, le chiffre qu'on a, c'est 7 ans.
Comment est-ce qu'on peut évaluer et de faire partager aux autres comment c'est une maladie qui vous pourrit la vie?
Je vous parlais des symptômes qui sont très très différents. Moi, ce qui m'a étonnée au cours de l'enquête et au cours des dédicaces, c'est moi je souffre pas d'endométriose, donc j'ai vraiment été dans l'écoute pour comprendre ce que vivaient ces femmes. Et donc en dédicace, il y a des femmes qui nous ont dit en fait que elles n'ont pas plus souffert en accouchant que lors de leur crise d'endométriose. Moi, personnellement, j'ai un petit garçon, j'ai accouché. J'ai eu un mal de chien en accouchant. J'ai ce repère-là. Donc, je n'ose imaginer souffrir comme ça en continu. Il y a des femmes qui souffrent trois semaines sur quatre. C'est pas uniquement pendant leurs règles. Pour certaines d'entre elles, c'est quasiment tout le mois. Donc, de souffrir... Enfin, ce niveau de douleur me laisse sans voix, en fait.
Et là encore, hein, la douleur, elle est, on l'évalue. Hein, il y a des critères pour évaluer la douleur. Il y a même des spécialistes qui prennent en charge la douleur.
Mais tout à fait. On a l'interview d'une algologue. C'est le médecin de la douleur. Alors, c'est des médecins, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Non, ça c'est clair. Mais c'est des professionnels que certaines femmes souffrant d'endométriose peuvent rencontrer, en fait. Lorsqu'il n'y a plus personne qui arrive à prendre en charge leur douleur, ces professionnels de santé-là peuvent les aider.
Nathalie André, vous êtes notre invitée. Je rappelle que vous publiez Endo Girls, c'est une enquête sans tabou sur l'endométriose et la santé des femmes aux éditions Le Courrier du Livre. Et alors, effectivement, c'est illustré pour ceux qui nous écoutent. Donc, finalement, ça permet de mieux faire passer les messages de santé. Vous êtes avec nous jusqu'à 13h.
AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Avec la journaliste Nathalie André qui est avec nous sur ce plateau pour parler d'Endo Girls. Et dans ce livre, vous avez interrogé des femmes qui souffrent d'endométriose, dont Djienne Abdelila. Bonjour Djienne. Alors, est-ce que vous m'entendez Djienne?
Oui.
Ben écoutez, vous êtes la bienvenue des auditeurs de Beurre FM. Vous connaissent bien, puisque vous avez été intervenante dans l'émission de Bilal Nelman. Vous êtes sportive de haut niveau, hein, championne du monde 2015 de grappling et combattante pro de MMA, enseignante à la Sorbonne. Aujourd'hui, vous êtes conférencière et ambassadrice de l'association EndoMind. Et vous avez fondé la GN Academy. Est-ce qu'on peut dire que vous avez eu la chance, d'une certaine façon, d'avoir été diagnostiquée tôt de votre endométriose?
Alors non, malheureusement, on peut pas dire ça, parce que moi, j'ai été diagnostiquée très tard, d'ailleurs peu avant que j'intervienne sur Beurre FM. Donc il y a...
Ah bon, moi j'ai cru que vous aviez 16 ans quand on vous a diagnostiquée.
Non, en fait, moi, j'ai eu mal dès mes 16 ans, et en fait, on l'a diagnostiquée à 35 ans, 36 ans.
D'accord. Et donc, finalement, quand vous aviez mal à 16 ans, comment on vous traitait?
Bon, alors déjà, ça a été compliqué parce que moi, j'avais pas la possibilité de discuter avec ma mère de ces problèmes-là. Donc, on m'a envoyé voir une endocrinologue qui m'a mis sous une pilule qui est interdite à la vente aujourd'hui, c'est la Diane 500. Et vu qu'elle me convenait pas, on a fini par me mettre sous Lutenil, qui est un espèce de traitement qui met sous ménopause artificielle sans jamais m'expliquer ce que c'était, jusqu'à ce que je sois obligée de l'arrêter en urgence, parce qu'apparemment c'est un médicament qui pose des problèmes de méningiome au cerveau, et que normalement on donne pas plus de 4 mois, et que moi j'ai pris pratiquement pendant 20 ans.
Qu'est-ce qu'on vous a dit à l'époque? Enfin, quand on vous a mis sous traitement, on vous disait quoi?
On me disait rien.
D'accord.
On m'a strictement rien dit, à part que bah, c'est normal, il faut que j'arrête de faire ma douillette et ça va bien se passer.
Mmh. Et puis vous avez décidé de l'arrêter du jour au lendemain, ce traitement?
J'ai pas eu le choix, parce que ma santé était en danger. Et depuis, on a essayé tout un tas d'autres traitements sur moi, de l'implant, d'autres pilules microdosées, et je n'ai jamais supporté ces traitements hormonaux. Donc j'ai dû tout arrêter du jour au lendemain.
D'accord. Et de vous réapproprier votre douleur, c'est ça?
Ouais, moi je sais pas si on se la réapproprie, mais en tout cas, elle a fini par reprendre le dessus sur ma vie. La douleur, la fatigue et tout ce qui va avec.
Comment vous pouvez décrire, Jen, l'impact que l'endométriose a eu sur votre carrière et sur votre vie de championne?
Alors en fait, tant que j'étais sous Lutenil, je pense que ça a régulé pas mal mes hormones, donc ça allait. Et le jour où j'ai dû arrêter, j'ai dû mettre un terme à ma carrière.
Quand vous étiez en activité, vous en parliez à des docteurs, à des membres de l'encadrement ou pas du tout?
Non, c'était extrêmement tabou, déjà d'une. De deux, dans les équipes de France où j'étais, il n'y a jamais eu de rendez-vous avec des médecins. Et dans les clubs, les coachs sont pas du tout formés. Et au contraire, ils ont énormément d'a priori. C'est le genre de personne qui, quand une nana arrive et qu'elle a un peu de mauvaise humeur, vont lui faire la réflexion du genre « t'as tes règles ».
Je vais vous dire un truc à Freudien, hein, vous m'envoyez balader. Hein, si vous êtes, est-ce que cette douleur vous a rendu plus forte?
Ah bah bien sûr, moi je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui sans avoir sans m'être construite avec toutes ces douleurs. Voilà, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré la douleur, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en mettant en année sabbatique au niveau de l'éducation nationale, et que j'arrive à surmonter tous les obstacles grâce à la force que ça m'a forgée en effet.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous donnez des conférences, et notamment vous parlez d'endométriose et de la vie en entreprise, un petit peu partout en France. Vous dites qu'il y a toujours un tabou des menstruations dans le sport.
Alors, il y a toujours un tabou. Maintenant, ça commence à se lever. Alors, d'une, parce que il y a enfin des scientifiques qui font des études en prenant pour sujet des femmes. Parce que pendant très longtemps, quand on étudiait la performance, ou quoi que ce soit dans le sport, on prenait uniquement des sujets masculins. Donc forcément, si on ne prend pas en compte le cycle hormonal, chez les femmes, le cycle de performance ne peut pas être le même. Notamment une étude qui est faite actuellement à l'INSEP, et deuxièmement parce que des sportives comme moi, avec une plus grande notoriété, ont commencé ces deux dernières années à lever les tabous et à en parler. Et exactement de la même manière qu'elles le font aussi avec la maternité. En fait, il faut arrêter de mettre des tabous partout, et si on apprend à connaître son cycle, on sera beaucoup plus performante. Et il y a quelques années, si je peux me permettre, il y a l'avant-dernière Coupe du Monde de foot, on a demandé à l'équipe américaine qu'est-ce qui avait fait qu'elles avaient été aussi performantes tout au long de la Coupe du Monde. Et les coachs ont répondu, mais parce qu'on a pris une équipe de médecins qui ont travaillé sur le cycle menstruel de nos athlètes. Et du coup, on a commencé à dire, ça pourrait être intéressant de le généraliser.
C'est ça qu'il faut populariser comme idée, finalement, c'est la prise en compte du cycle. Déjà dans les programmes d'entraînement, par exemple.
Oui, c'est ça. Moi, il y a quelques semaines, j'étais en Algérie, justement, au comité olympique algérien, pour faire une conférence sur l'impact du cycle menstruel et expliquer, en fait, que quand il est bien maîtrisé, ça devient un atout à la performance, plutôt qu'un blocage ou autre chose. Et ça, j'en avais discuté avec le docteur Schwitter, qui est la présidente adjointe du comité olympique, lorsqu'on s'était croisé en France, et qu'elle m'avait demandé on avait discuté d'une combattante, d'une jeune Algérienne qui sera aux Jeux Olympiques, sur comment on pourrait améliorer sa préparation physique.
Et quels sont les messages que vous faites passer à destination des femmes en entreprise, par exemple?
Qu'une bonne gestion de son cycle menstruel et le fait de bien connaître son cycle. Donc moi je distribue des calendriers par exemple pour analyser son cycle, ça va permettre d'être beaucoup plus performante en entreprise. un des freins qui fait que les femmes n'arrivent pas à dépasser les plafonds de verre, c'est justement qu'elles ne sont pas en adéquation avec leur cycle menstruel. Et très souvent, elles vont prendre des décisions ou elles vont se surcharger de travail à des périodes pendant lesquelles, hormonalement, elles ne devraient pas le faire. Et très souvent, quand je discute avec elles de prises de décisions qui ont été catastrophiques dans leur carrière, ou dans leur évolution au sein de l'entreprise, et qu'on regarde par rapport au planning, ça correspond très souvent à des périodes du cycle où elles n'étaient pas les plus performantes.
Alors, y a, oui, Nathalie ?
Non, tout ce que dit Jen est vrai, enfin, ça recoupe les autres témoignages qu'on a dans Dogirls.
Y a des entreprises hein, qui ont donné des jours, on va dire, de congés menstruels à leurs salariés. Ça se développe ?
Oui, ça se développe. Il y a une vraie prise en compte et c'est en train de se généraliser. Maintenant, les seuls qui bloquent, ce sont c'est nos gouvernants. Voilà, on a bien vu que même en les amusant avec des petites sondes pour leur faire sentir la douleur, voilà, c'est comme s'il y avait besoin d'être empathique envers la douleur pour la comprendre. Même ça, ça n'a pas changé les choses. Je crois qu'il faut que cette prise de conscience nationale, elle se développe de plus en plus et que les dirigeants comprennent en fait que c'est un sujet de santé et qu'il faut vraiment le prendre à bras le corps parce qu'on va pouvoir aider un tas de femmes à mieux vivre. Aujourd'hui, l'endométriose, moi, aucun de mes traitements, par exemple, n'est remboursé par la sécurité sociale. Et ça, c'est pire que de ne pas pouvoir demander de.
C'est-à-dire, alors, je suis désolé de vous poser la question, mais ça vous coûte combien par mois ?
Entre les séances d'ostéopathie à 100 euros, les séances chez la gynéco pour faire de la photobiomodulation, les traitements antidouleurs, j'en ai pratiquement pour 300-400 euros par mois.
D'accord. Pas de prise en charge par la sécurité sociale ?
Non.
Oui, on en parle dans Dogirls. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques mois qui dit qu'il y a en moyenne 120 euros de reste à charge. Bon, là pour JN, c'est plus. Il y a un reste à charge de manière quasi systématique pour les femmes qui souffrent d'endométriose.
D'accord. Et là encore, vous avez pris en charge votre maladie avec des méthodes plutôt novatrices.
Oui, alors moi, c'est vrai que j'ai la chance quand même de travailler avec beaucoup de médecins. J'ai un comité scientifique aussi au sein de mon entreprise pour traiter de ces questions-là. Donc du coup, moi, j'ai la chance d'avoir un accompagnement avec des techniques qui sont loin des techniques médicamenteuses, mais qui, pour le coup, ne sont pas remboursées et coûtent un peu plus cher.
Alors c'est vrai que les patientes hein, continuent de réclamer la fameuse inscription de l'endométriose sur la liste des affections ouvrant droit à une ALD, donc ALD, affection longue durée, 30, oui. Ouais. Ou 31, ce qui permettrait de.
Alors, 31, c'est le cas. Hein. On peut obtenir une ALD 31 si votre dossier est accepté par le médecin de la Sécu. L'ALD 30, ça serait généralisé.
31, est-ce que vous êtes prise en charge à 100%?
Il y a une prise en charge si c'est validé par le médecin de la Sécu.
D'accord.
Mais d'après ce que m'ont dit toutes ces femmes, c'est compliqué d'obtenir cette validation. Et d'une région à l'autre, les critères ne sont pas similaires. Donc, ce qui pose un problème d'égalité d'accès aux soins.
Et qu'est-ce que ça changerait, donc, le 30 et le 31? Le 30, c'est quoi?
C'est la généralisation. L'endométriose serait totalement remboursée, en fait.
D'accord.
Mais pour le gouvernement, actuellement, c'est non.
Ouais, vu les mesures qu'ils ont prises sur la sécurité sociale en ce moment, je ne suis pas très sûr que ce soit la priorité.
Non.
Diane, vous vouliez dire quelque chose, pardon, vous a coupé la parole.
Ouais, je disais, en fait, ce qui est complexe aussi, c'est que toutes les endométrioses ne sont pas détectables. Moi, par exemple, sur les IRM, on ne voit pas. Voilà, et à partir du moment où il n'y a pas d'image, où il n'y a pas de. C'est pour ça que le test salivaire, par exemple, peut être une bonne chose.
Alors, on en parle de ce test, JN, peut-être ?
Oui, alors en fait, il y a un test salivaire qui a été mis par un laboratoire, donc c'est Zewig. Donc moi, je travaille en ce moment, je vais rencontrer justement le fondateur. Et en fait, c'est un test qui permettrait de détecter l'endométriose grâce à un test salivaire en très peu de temps, ce qui permettrait de réduire, parce qu'en fait, entre le moment où une femme commence à se plaindre de douleur et le moment où on diagnostique l'endométriose, très souvent, le temps, c'est 7 ans d'errance médicale. Là, ça irait beaucoup plus vite. Et du coup, on ne se poserait pas la question de dire « Oui, mais sur les images, on ne voit rien. Est-ce que c'est vraiment l'endométriose ?» Moi, par exemple, c'est mon cas. Quand j'ai fait la demande de dossier à LD, ça a été « Mais sur les images, il n'y a rien. »
Donc vous avez fait la demande du dossier, mais il n'a pas été validé, c'est ça?
Non, moi, mon dossier n'a pas été validé, non.
Oui, pour le test, pour compléter ce que tu dis, Jen, il y aurait un résultat sous 10 jours. Donc effectivement, ça change quand même grandement la donne.
Alors ça change la donne, non pas par rapport au fait qu'on va trouver des solutions, etc. Mais
oui.
Déjà, nous, pour les femmes, de se dire, waouh, en fait, c'est pas dans ma tête.
Mais oui, mais complètement. C'est hyper important.
Voilà, et ça fait partie du processus aussi pour accepter les choses, pour accepter de changer sa vie, pour accepter de changer son alimentation, ses habitudes, etc. Mais aussi pour arrêter de faire croire aux femmes qu'une femme, c'est normal qu'elle ait mal, en fait. Non, une femme, c'est pas normal qu'elle ait mal. Il faut arrêter de généraliser et d'accepter cette douleur. Et puis, ça permettrait aussi de changer la donne au niveau de la sécu. Moi, ma sécurité sociale, c'est toujours celle de l'éducation nationale, c'est toujours la MGEN. Et la MGEN est souvent très en retard, beaucoup plus lente que la sécurité sociale classique.
MGEN, si vous nous écoutez... voilà. on va vers une société d'économie, mais quand on voit ce que ça coûte finalement l'endométriose, et notamment en jour d'arrêt maladie, parce que ça coûte cher, ça serait peut-être intéressant d'une prise en charge, même si aujourd'hui on est d'accord, ça ne se soigne pas l'endométriose.
On n'en guérit pas.
C'est ça, on n'en guérit pas, mais ça changerait aussi beaucoup plus de choses. Parce moi je bosse souvent avec des entreprises où au début, quand ils embauchent un groupe de salariés qui a autant d'hommes que de femmes, des années plus tard, quand ils regardent ceux qui ont évolué au niveau des postes, dans 90%, ce sont des hommes qui ont évolué et pas les femmes. Et un des freins qui fait que ces femmes-là hésitent à postuler, bon, en dehors du syndrome de l'imposteur, etc., on ne va pas revenir dessus, c'est que certaines de ces femmes ont des problématiques comme celle-ci et du coup elles n'osent pas parce qu'elles se disent ouais mais j'ai beaucoup de jours d'absence, j'ai beaucoup de douleurs, j'ai beaucoup de machin et donc je vais pas me permettre de me dire je vais essayer de postuler à un poste à un niveau supérieur parce que au final elles ont peur de tout ça. Donc ça aussi c'est des freins qui font que les femmes n'osent pas et n'évoluent pas aussi rapidement dans les entreprises ou de se lancer dans l'entrepreneuriat.
Bon, comme vous, Jen.
Exactement.
Bon, on vous retrouve sur les réseaux sociaux.
Ouais, à Jen Academy, partout.
Bien, on vous suit, on like, on commente. Merci d'avoir été avec nous, Jen. C'est un grand plaisir de vous entendre.
Merci, Jen.
C'est un plaisir pour moi. Salut, Nathalie.
Merci. Et on continue de parler d'Endo Girls, le livre de notre invitée Nathalie André ce matin.
AVS revient dans un instant, midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, avec Nathalie André qui est notre invitée, je rappelle que vous êtes journaliste et que vous publiez Endo Girls, une enquête sans tabou sur l'endométriose et la santé des femmes aux éditions du Courrier, illustré par Violette Suquet. Alors, vous l'avez votre livre avec vous, montrez-le à la caméra.
Voilà.
Puisque l'émission est filmée. Voilà. Ouvrez les pages parce qu'en fait, c'est un livre qui est vraiment illustré. Donc, c'est vraiment sympa. Il y a un vrai boulot.
C'est un roman graphique. Roman
graphique, on dit maintenant.
Ouais. Vous avez 9 témoignages de femmes, des femmes qui ont des âges différents, qui souffrent de symptômes différents. Donc, ces témoignages sont illustrés. On avait Jen en ligne. Jen est l'une de ces 9 femmes. Et pour compléter ces témoignages, vous avez des interviews d'experts, radiologues, pour parler du diagnostic, gynéco, bien sûr, sages-femmes, puisque les sages-femmes interviennent
sont
dans la prise en charge.
En première loge, ouais.
Ouais, ouais, carrément. Ouais. Chirurgiens, parce qu'une partie des femmes sont opérées. Algologues, médecins à la douleur.
Alors, est-ce qu'on continue à opérer ou pas aujourd'hui?
Oui, mais moins. Le docteur Yvain que j'ai interviewé pour la BD le dit, ils ont revu en fait les chirurgiens leur pratique par rapport à l'endométriose. Il y a quelques années on opérait beaucoup plus, il y a des femmes qui étaient opérées à plusieurs reprises. Maintenant l'objectif c'est d'opérer une fois et de nettoyer bien nettoyer la zone pour que les femmes gagnent en confort de vie et pour que ça n'affecte pas leur fertilité.
C'est quoi la définition de l'endométriose?
Donc c'est une maladie gynécologique chronique inflammatoire qui, on l'a dit, touche entre 10 et 20% des femmes en âge de procréer. Le chiffre officiel, on va dire, celui qui est donné par le ministère de la Santé, c'est 10, mais plusieurs études, plusieurs experts le disent, c'est plus en fait. Le docteur Éric Petit, radiologue, qui est sûrement le plus grand radiologue, enfin le meilleur expert de l'endométriose en termes de radiologie en France le dit, c'est minimum 15%, voire 20%.
Et sur la radio, qu'est-ce qu'on voit alors ?
Eh bah, déjà, il faut savoir la lire, en fait. Le problème du diagnostic, c'est ça. C'est que tous les radiologues ne sont pas capables de lire ces imageries. Il y a très peu d'experts en France qui sont capables de le faire. C'est une maladie complexe. Le docteur Petit, donc, je le disais, qui est un expert de la maladie, lui, ça fait des décennies qu'il s'intéresse à la maladie, bien sûr, qui sait lire ces imageries. Il essaie de former des jeunes à cette pratique, mais c'est un apprentissage compliqué, donc c'est compliqué, en fait. Et en plus, pour certaines femmes, et c'est le cas de JN, ça se voit pas forcément sur les imageries. Pour des femmes, c'est flagrant. En fait, le problème de l'endométrio, c'est ça, la diversité des symptômes. Certaines ne souffrent pas, mais ne ressentent pas des douleurs, mais sont victimes d'endométriose quand même. Certaines ont des douleurs atroces, mais ça va se voir difficilement sur les imageries. La maladie est hyper complexe.
Et comment on finit par poser justement un diagnostic ?
Bah, par la lecture des imageries, mais le docteur
Petit. Il n'y a que l'imagerie qui peut valider
non, non,
une
non,
endométriose.
Il n'y a pas que ça. Le docteur Petit le dit, en fait. Prendre le temps de questionner les femmes, il y a des questionnaires qui existent. Si les femmes cochent toutes les cases, on peut arriver à la conclusion qu'elles souffrent d'endométriose. Le docteur Petit, au cours de nos échanges, il me l'a dit plusieurs fois, une jeune fille une adolescente qui loupe le collège ou le lycée, parce qu'elle est pliée en deux dans son lit, elle est incapable d'aller en cours. Rien qu'à partir de ça, on peut supposer qu'elle souffre d'endométriose. Une gamine de 14 ans va pas feindre.
C'est pas quelqu'un qui veut pas aller en cours.
Non. Si elle est pliée en deux, incapable d'aller en cours, il faut vite se poser des questions.
Beaucoup d'hommes ne comprennent pas, parce que c'est une douleur qu'ils ne ressentent pas, ils ont du mal à imaginer ce que ça peut être.
Oui et non. Enfin, au cours des dédicaces, on a été surprise quand même avec Violette Suquet. On a beaucoup d'hommes qui viennent. Ce sont des papas, ce sont des petits copains, ce sont des frères. Les hommes commencent à s'intéresser à la maladie. Ils sont quand même grandement concernés. Ils le vivent pas directement. Mais ils sont soit mariés à ces femmes qui souffrent, c'est soit leur père. Enfin, ils les voient souffrir, ces femmes. Il y a quand même, ils commencent à se poser des questions et on les voit et ça nous fait grandement plaisir en fait de discuter avec eux, de les rencontrer.
Alors on a l'impression que c'est une maladie nouvelle, maladie à la mode, mais c'est une maladie qui existe depuis l'Antiquité, qui est connue depuis l'Antiquité.
Dans les écrits des Égyptiens, il était fait référence à ces symptômes-là. Donc les Égyptiens. Donc c'est pas hier matin, ça date. Ouais. Sauf que pendant très très longtemps, ça a été pris pour de l'hystérie à la Renaissance.
Alors c'est Galien lui, une autre figure de la médecine antique, qui avait fait l'association entre l'endométriose et l'hystérie.
Oui, et après, si on va plus loin en termes de chronologie, il y a des femmes pendant la Renaissance qui ont été envoyées au bûcher, puisque elles étaient tordues de douleur, on pensait qu'elles étaient possédées, donc elles étaient des sorcières, donc elles ont été brûlées. Et en fait, une partie de ces femmes souffraient d'endométriose.
Alors il y a beaucoup de découvertes qui datent des 19e et 20e siècles, mais qui sont restées dans l'ombre finalement. On n'a pas exploité.
Alors pourquoi ? On s'est posé la question. L'endométriose est une maladie féminine. Il y a beaucoup de nos interlocuteurs qui nous ont dit si l'endométriose avait été une maladie masculine, peut-être qu'on serait à un autre stade.
Et elle a été nommée en 1927. Donc, là aussi, ça va faire 100 ans qu'elle a été nommée quasiment. Donc voilà, rien
Et elle n'est enseignée, on le disait tout à l'heure, en faculté de médecine que depuis 2020.
Ce qui est peu connu, c'est, et que vous avez commencé à en parler tout à l'heure, c'est l'endométriose des adolescents.
Ouais.
Ouais. Pourquoi c'est méconnu finalement? Parce qu'on l'associe à la douleur des premières règles.
Oui. Parce que des femmes d'autres générations, on leur a dit que c'était normal d'avoir mal pendant les règles. Eh ben non, en fait. Moi, je ne souffre pas d'endométriose pendant mes règles. J'ai une gêne. Je n'ai pas de douleur. Ce n'est pas normal d'avoir mal. On l'écrit, nos experts le disent dans Do Girls. Avoir mal, ce n'est pas normal. Donc, on consulte. Et si on ne trouve pas un médecin à l'écoute, ben on va voir quelqu'un d'autre. C'est pénible, parce qu'on aimerait faire autre chose. Mais il ne faut pas rester sur ce médecin qui vous dit bah, ouais, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Et on le disait tout à l'heure, une gamine qui est pliée en deux et qui va pas à l'école, à moins qu'elle soit très très feignante, y a un problème en fait. Il faut s'y intéresser assez vite.
Bien, les femmes aujourd'hui sont-elles mieux prises en charge d'après votre enquête?
Ben, on l'espère.
Non, mais ça c'est pas une réponse.
Bah, je ne suis pas dans tous les cabinets médicaux.
Non, mais bon, il y a eu un plan national. Est-ce que finalement, même régionalement, il y a un référent endométriose par département?
Alors ça se met en place, il y a des filières régionales, ça fait partie de la stratégie nationale déployée par, abordée par Emmanuel Macron en janvier 2022, ça se met en place. Après, vu la quantité de femmes énormes qui souffrent d'endométriose, il va falloir du temps pour que toutes ces femmes soient prises en charge. L'endométriose n'est enseignée que depuis 2020. Donc, ça fait 4 ans. Les étudiants à qui on a parlé d'endométriose en 2020, ils sont sûrement encore en faculté ou en internat. Voilà, ça va de mieux en mieux, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps.
Alors, l'endométriose est une maladie inflammatoire. Il y a eu beaucoup de livres sur, enfin, en tout cas, beaucoup de livres et d'articles sur l'alimentation anti-inflammatoire, hein, oui. De l'endométriose.
Oui, c'est quelque chose qu'on aborde dans Do Girls. Ça peut aider certaines femmes, le fait de changer de régime alimentaire. Après, la diététicienne qu'on a interviewée le dit, ça marche pour certaines femmes, pas pour d'autres, c'est attesté. Ça fait partie des choses qui peuvent aider à aller mieux. On le disait avec Jian tout à l'heure, on ne guérit pas l'endométriose, donc il faut essayer de trouver des astuces, mais des choses qui peuvent vous aider à aller mieux, en fait.
Par contre, ce qui fonctionne, c'est ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique du patient, l'ETP.
Oui, alors ça, oui. Alors, ce qu'on a au cours de l'enquête, on nous a dit effectivement que ça pouvait être positif. Le problème, c'est que c'est peu développé. Il y a peu de programmes qui existent en France. Donc, forcément, vu le nombre de femmes qui souffrent d'endométriose, elles ne sont pas toutes prises en charge par ces programmes. Mais c'est quelque chose qui est amené à se développer, et notamment sous l'impulsion des associations de patientes.
Alors, il y a une réflexion, savoir est-ce qu'on doit le dire en entreprise? Parce qu'effectivement, certaines femmes, vous disiez tout à l'heure, souffrent entre 1 et 20 jours par mois. C'est compliqué parfois d'aller travailler tellement vous êtes pliées en deux. Est-ce qu'il faut le dire en entreprise ou pas?
C'est une vraie question. Il faut voir à qui on a affaire, quels sont nos supérieurs hiérarchiques. Après, l'un des interlocuteurs, et Yasmine Kando, présidente d'Endo France, en parle dans la BD, c'est la médecine du travail. La médecine du travail est soumise au secret médical. Donc, si on leur en parle, ils sont pas censés venir le répéter dans la minute à votre responsable. Après, faut-il que ces médecins aient été formés à l'endométriose aussi? Donc, c'est un peu parfois un cercle vicieux. Mais l'un des interlocuteurs des femmes, ça peut être la médecine du travail.
Vous ne seriez pas d'être mis de côté, finalement, si vous parlez de votre endométriose?
C'est vraiment, ça repose sur un choix personnel. On va pas dire aux femmes, parlez-en dès lundi à votre employeur.
Vous prenez beaucoup l'exemple de femmes qui ont tenté finalement l'entrepreneuriat parce que c'était plus adapté.
C'est le cas de Jian. On peut adapter son emploi du temps à sa douleur. Après, c'est sûr, l'auto-entrepreneuriat peut poser des problèmes de précarité. Mais c'est le choix qui est fait par une partie des femmes.
La suite est dans votre livre « Endo Girls, une enquête sans tabou sur l'endométriose et la santé des femmes » aux éditions Le Courrier. Livre illustré, roman.
Roman graphique.
Ouais, c'est un roman, mais inspiré de faits réels, quand même.
Ah, mais toutes ces femmes existent, voilà. tous ces experts existent.
Tous les gens qui sont dans votre livre existent vraiment.
Mais bien évidemment.
Merci d'avoir été avec nous, Nathalie.
Merci.
Vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Très belle journée. Santé sur beurrefm.
Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.